Trisac. De 6 à 8. Du Trisac.
Avec Benoît Dutrisac. Cube Radio.
Bienvenue à cette deuxième heure. Mario Dumont est avec nous. Mario, bonjour.
Bonjour.
Et on va couvrir les nouvelles, Alexandre Dubé, les nouvelles à surveiller aujourd'hui.
Salut, Benoît.
Et aussi une mise à jour, d'abord, à ce qui s'est passé au lac Saint-Jean.
Oui, les recherches qui vont se poursuivre là, aujourd'hui pour localiser ces 5 touristes français qui manquent toujours à l'appel au lac Saint-Jean. Au cours des dernières heures, il y a eu quand même développement. On a retrouvé 2 motoneiges dans les eaux du lac Saint-Jean, à l'embouchure de la rivière Grande Décharge. On sait que le guide du groupe, ce Montréalais de 42 ans, Benoît L'Espérance, est décédé. Ils étaient dans un secteur, puis c'est ça l'enjeu, là, dans un secteur non balisé. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'ils ont voulu prendre un raccourci pour retourner à l'endroit où ils étaient hébergés? Et compte de... C'est quand même incroyable, dans les opérations de recherche, il y a l'hélicoptère de la Sûreté du Québec qui s'est écrasé. Heureusement, le pilote a survécu, mais quand même, il a subi toutes sortes de fractures.
Ah oui, quand même, hein?
Ouais.
OK, parce que dans le journal, on ne sait pas s'il y a eu des blessures ou pas.
Ben,
mais
on nous disait blessure mineure, mais je veux dire, si tu te fractures un paquet d'affaires...
Ouais, ça brise ta fin de semaine.
Ben, là, tu sais, en tout cas.
Bon, ben mauvaise décision, en tout cas, ce qui s'est passé en motoneige. Soyez prudents si vous comptez en faire cette fin de semaine.
Et là, il y a des spécialistes de la motoneige qui commencent à sonner l'alarme. Y a-tu un manque de réglementation dans le milieu? Y a-tu un manque de formation également pour ces guides-là? C'est gros, là, l'industrie de la motoneige au Québec. Là, 30 000 touristes qui viennent au Québec, des fois, ce sont des gens qui... La plupart qui ne sont pas habitués nécessairement de piloter ce genre d'engin-là.
Mais alors, Mario, je me trompe-tu ou il me semble qu'il y a quelques années, 2-3 ans, on a vécu la même affaire au Québec avec des groupes de touristes qui provenaient de la France, puis il y avait eu encore un accident. Il me semble que ce n'est pas la première fois que ça arrive.
C'est pas la première fois que ça arrive. Il y a eu des accidents, il y en a eu quand même quelques-uns là, ben, au fil des ans. Je pense pas qu'il y ait déjà eu une tragédie semblable sur deux fronts. D'abord, le nombre de victimes.
Ouais.
Mais deuxièmement, évidemment, c'est une occasion de reposer toute la question de la sécurité d'une opération où t'assois quelqu'un sur une bombe là, de puissance, sur un véhicule très, très puissant, puis qui a jamais... Écoute, pas juste qu'ils connaissent pas ça. Dans bien des cas, c'est des gens qui ont jamais fait de moto, qui ont jamais fait d'équivalent, qui ont jamais conduit ce genre de véhicule-là et qui connaissent même pas la neige. Tu sais, le fait, nous, les Québécois, ne fût-ce que parce qu'on a fait du toboggan quand on était enfant, la neige molle, la neige glacée, la neige durcie, si on connaît la neige. Alors là, t'as des gens qui connaissent aucun des paramètres, t'es assis là-dessus, puis avoir tu tords la poignée, puis ça avance, puis de l'autre côté, t'as le frein, puis... tu sais, je sais pas, est-ce que c'est une pratique prudente? Mais dans ce cas-ci, ce que j'allais dire, donc,
c'est
que ça s'applique pas vraiment, là. C'est pas des erreurs de conduite, c'est purement... là où ils ont été amenés, bon, par le guide, il y a une nouvelle hypothèse. Est-ce que ça se peut qu'ils aient perdu de vue le guide, se sont égarés, puis le guide essayait d'y retrouver, puis ils se sont mis eux-mêmes en danger? Mais donc, l'hypothèse la plus probable, ce qu'on voit par les trajets, c'est que c'était plus court. Ils sont... Mettons que c'était une heure, là, faire le grand détour en suivant la piste officielle. Puis là, t'avais une espèce de petit raccourci où ça pouvait te prendre 5-10 minutes pour faire le même chemin.
Ben, c'est une mauvaise décision. Maude vient de me sortir des infos. Là, chaque année, près de 30 personnes perdent la vie en utilisant la motoneige. Mais depuis 2010, selon le bureau du coroner, 21 décès dans un contexte d'accident de motoneige qui concerne des touristes. 17 hommes et 4 femmes. Alors, depuis 10 ans, 21 personnes, 21 touristes qui sont morts.
C'est ça. Donc, en moyenne, c'est 2 par année.
Oui, mais là...
Puis là, t'en as 6 dans le même accident. Puis, c'est pas... C'est ça. C'est que cette fois-ci, c'est pas l'inexpérience de conduite ou la vitesse ou, tu sais, ce qui est vraiment en cause, c'est... Qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il faisait dans un secteur où la glace ne durcit pas?
Un mot aussi, Alexandre, sur ce virus. On va en parler tantôt avec un médecin de l'Institut national de santé publique du Québec. Le coronavirus qui s'ajoute à la liste de virus qu'on a connus depuis une dizaine d'années.
Oui, il y a eu H1N1, Zika, etc. Et là, la Chine essaie de trouver tous les moyens pour essayer d'enrayer cette épidémie-là. On est rendu à 17 morts, 500 malades. Il y a 2 nouvelles villes qui viennent d'être placées en quarantaine. Et qu'elles le seront au cours des prochaines heures. Ce sont des villes voisines là, de Wuhan qui a déjà été placée en confinement hier. Et plus près de chez nous, ben, la santé publique nous apprenait hier qu'au moins moins 5 personnes font l'objet maintenant d'une investigation dans des hôpitaux, que ce soit à Québec ou à Montréal, depuis cette éclosion-là.
Ce qui est étonnant, Mario, c'est hier on a appelé à l'aéroport de Montréal, Trudeau, Dorval, Montréal, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, et aucune mesure n'a été prise jusqu'à maintenant.
Parce que la ministre de la Santé nous a dit le contraire. La ministre McCann a dit que dans les grands aéroports canadiens, dont Montréal, il y avait des mesures qui étaient prises.
Ben nous, on a appelé directement à l'aéroport, puis on nous a dit non, il n'y a pas de mesures particulières qui ont été prises. Fait que va falloir vérifier ça. Moi, je pense qu'il faut prendre la température de tout le monde.
Des gens qui arrivent de la Chine. Je pense qu'il faut au moins les interroger, les questionner, etc. Je pense que la question se pose. Au moins de cette région-là de la Chine, minimalement.
Ouais.
C'est ce qui semble se faire dans la plupart des aéroports du monde.
Oui, pas avoir de mauvaises surprises. Mm-hmm. Et aussi, Donald Trump, qui va être à son troisième jour de procès pour destitution, mais il s'en fout, il n'est pas là.
Il a tweeté beaucoup là-dessus, Trump. Il a tweeté pas mal, au-dessus d'une centaine de tweets, de retweets, entre toutes sortes de sujets. Aujourd'hui, les démocrates qui vont poursuivre la présentation des arguments pour justifier, en gros, la destitution de Trump. Ce sera les trois jours. Les démocrates ont trois jours pour se faire entendre là-dessus. Ça va se terminer demain. Et là, samedi, ce sera au tour des avocats, comme tel de Trump, d'amorcer leur présentation.
Bon, et tout ça va rien donner, comme on le sait.
Il faudrait qu'il y ait pas mal de républicains qui virent leur capot de bord.
C'est bon pour les codes d'écoute de CNN puis Fox News, c'est sûr. Alexandre, merci.
Salut, à demain.
Il y a quelques nouvelles aussi qui intéressent Mario Dumont. D'abord, l'industrie de la récupération et du recyclage qui est dans la chenoute, si je lis bien ton texte.
Oui, vraiment. C'est inquiétant. Peut-être quelque chose que le commun des mortels au Québec pensait... qui allait de soi, là. On a tous la distribution de bacs bleus au Québec a été, on pourrait dire, un succès retentissant. Là. On a, dans un temps quand même assez rapide, implanté ça partout, qu'on vive en campagne ou en ville, tout le monde a son bac bleu. Et on se rend compte qu'on s'est occupé juste de ça. C'est l'incompétence crasse des gouvernements à tous les niveaux, du municipal là, au Québec, au Canada, parce que on s'est jamais occupé vraiment du recyclage. Ce que le bac fait, c'est la récupération. On récupère les matières. Et là, ça nous vient de partout. Hier, je te parlais de la Malaisie qui fait comme les Philippines, qui nous retournent des containers de plastique.
Nos vidanges.
Il y a le papier que la Chine, papier carton là, que la Chine l'année passée a arrêté de prendre, l'année passée ou l'année d'avant. Maintenant, l'Inde. Et là, les centres de tri sont en train de crever les uns après les autres. Donc demain. Il y a réunion au sommet, réunion d'urgence. Si tu lis les différents journaux, là, tu sais plus combien de centres de tri sont sur le bord de fermer. Parce que chaque média, chaque journal a obtenu des aveux ou des confidences de différents centres de tri à Châteauguay, à Montréal, à Saguenay. Il y en a dans le bas du fleuve, il y en a en Gaspésie. Il y a partout des centres de tri qui sont soit en difficulté financière, soit carrément sur le bord de la faillite à étudier le scénario de la fermeture. Parce que alors, une de leurs sources de revenus, c'est la vente des matières. Et les matières telles qu'on les trie ou qu'on les trie mal ne se vendent plus. Donc, c'est pour le gouvernement de la CAQ. Puis c'est un peu curieux parce que une des choses qui se produit, c'est que les environnementalistes ne s'intéressent plus qu'au sujet des changements climatiques. Donc, c'est comme si le gouvernement Legault allait pas être jugé là-dessus, là. Un problème environnemental, moi, je trouve énorme parce que pour les villes, entre autres, c'est sûr que c'est pire pour les villes plus grandes. L'enfouissement des déchets, c'est un problème. Donc, réduire la quantité de déchets.
Les dépotoirs sont presque rendus à pleine capacité.
Absolument. Ouais. Donc, réduire la quantité de déchets, récupérer et recycler les matières, c'était un essentiel. Ça a été très, très, très mal fait. Une certaine lâcheté aujourd'hui aussi de dire, nous autres, on fait des ballots de matière, mais c'est dégueulasse, ça, c'est tout mélangé, c'est pas utilisable. Oui. On les envoie à Malaisie, puis là-bas, il y a des enfants avec leurs petites mains, ils retrient ça, là. Ça, tu sais, c'est ça qu'on a fait, là. C'était incroyable, comme incompétence, puis comme lâcheté. Mais là, c'est un problème environnemental qui ne sera pas vraiment surveillé ou jugé. Parce que les groupes environnementaux, il n'y a plus qu'un seul thème, ce sont les changements climatiques.
Et tous ces ballots de plastique, puis de papier, puis de carton, ça va se ramasser au milieu d'un champ, puis ça va dépérir tranquillement. On va planter des arbres autour, puis on le verra pas.
Mais ça peut se ramasser dans des dépotoirs aussi, là, Benoît. Là.
Oui, non, c'est ça, ils s'actionnent dans les dépotoirs.
Dans le cas de l'Inde, là, ce que je comprends, c'est que les derniers temps, on les payait pour prendre notre papier. C'est plus eux qui achetaient notre papier ou notre carton. Comme les ballots étaient dégueulasses, mais nous, on voulait s'en débarrasser, on payait l'Inde. Mais eux, là, un pays comme l'Inde, là, si on les paye et s'en débarrasser, ils peuvent aussi bien le dire, ah, ben, regarde, c'est pas récupérable, on va le brûler ou on va l'enfouir. Ou... Nous, on se donne bonne conscience en mettant notre carton dans notre bac de recyclage.
Ouais.
Peut-être qu'à l'autre bout, on paye des gens qui, peut-être, à l'autre bout, le récupèrent, le recyclent même pas.
Enfin. Faut que le ministre de l'Environnement se penche là-dessus, hein. Y en a quelques-uns.
Mais là, demain, il n'y a pas le choix. Demain, il y a une rencontre au sommet, une rencontre d'urgence parce que on ne veut pas. Écoute, notre bac bleu, là, ne sera plus ramassé s'il n'y a plus de centre de tri pour trier les matières. Là, on s'en va vers une crise majeure.
Mmh. Bon, et il y a aussi cette nouvelle, Ronan Ambrose, là, qui décide de ne pas se présenter à la chefferie du Parti conservateur. Ça s'ajoute à la liste. Ouais.
C'était la candidate chouchou. D'abord, une femme. Il n'y en a pas eu exagérément dans l'histoire du Parti conservateur. Il y a eu Kim Campbell, ça a mal tourné. Mais autant comme candidate à la direction du parti que comme chef du parti, on dit ça prend plus de femmes. Donc, Ronan Ambrose était une candidate. Elle a été chef par intérim du parti. Ça a bien été, on l'a aimé. Bon, pour les francophones, elle parle pas beaucoup français, très peu. Ça aurait été un problème, mais en tout cas, elle se retire, elle aussi. Et le fait est que de cette course des conservateurs, où on disait au début, il y en a des candidats, c'est incroyable, puis beaucoup de bons candidats, puis ça va être la course du siècle. Benoît, ils ont une méchante gang à avoir dit non. Hein.
Ouais.
Et cette semaine, Jean Charest, qu'on pense n'importe quoi de sa candidature, disons, ça aurait mis de l'animation dans la course. Ronan Ambrose, ça aurait mis de l'animation dans la course. Et là, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec une course essentiellement de Pierre Poilievre contre Peter MacKay. Il y a M. O'Toole, cet ex-militaire, qui demeure un bon candidat, mais moi, je crois pas vraiment qu'il va mettre des bulles dans le champagne.
Aaron,
ton bon ami Aaron. Mais là, après ça, derrière ça, je sais pas si tu as vu hier, deux candidats, un Québécois, entre autres, M. Descari, puis un autre Ontarien, pro-vie, anti-mariage gay, là, ressortent. Là, tout ce que les conservateurs, disons, ne voulaient plus. Les conservateurs... disons, plus au centre, ne voulaient plus entendre. Là, eux vont ramener ça au cœur de la campagne. Un paquet de petits candidats dont on se demande, franchement, des gens, Mme Gladue, un M. Singh de la région de Scarborough à Toronto, tu dis, ils vont-tu vraiment réussir à obtenir les 300 000 piastres, 3 000 signatures? Est-ce que des candidats dont on n'a jamais entendu parler en dehors de leur comté vont vraiment réussir? Alors, c'est une course, disons, que... si on compare le portrait qu'on avait le lendemain matin de la démission d'Andrew Scheer, on avait l'impression que c'était une course très, très, très prometteuse.
Les vedettes se retirent. Es-tu sûr, Mario?
Moi, je suis bien sûr.
Je veux juste vérifier, moi, à chaque fois.
Oui, tu fais bien.
Tu sais, je me dis peut-être qu'il y a un vieux relan qui remonte à la surface.
Non.
Comme ce dont tu parlais de la sauce hier, là, qui collait dans le fond. Là.
Justement, il ne faut pas brasser. Il ne faut pas remonter le fond.
Laisse ça au fond.
J'ai entendu parler toute la journée en passant de ma sauce à spaghetti.
Oui. L'image était bonne, puis pas très appétissante. Jean Charest, qui ne sert pas le Parti libéral non plus.
C'est le dernier petit commentaire que je voulais te faire. Ce matin, à 9h moins quart, Dominique Anglade va déposer officiellement son bulletin de candidature, devenir en bonne et due forme, légalement parlant, candidate à la direction du Parti libéral, va annoncer de nouveaux appuis. Mais Benoît, je suis obligé de te dire là, que mon avis, depuis le jour de l'an, depuis le début de l'année 2020, le Parti libéral du Québec a perdu des plumes et c'est pas de leur faute, là. Moi, c'est Jean Charest qui les a ramenés. Jean Charest revient à l'avant-scène comme candidat conservateur. Ça fait ressortir toutes ces histoires. Ça fait ressortir les histoires du PAC, etc. Là, hier, ça amène le leader parlementaire à répondre ou à commenter ce que Jean Charest a dit, puis à redire à son tour, ben oui, on voudrait que m'assurer, ça finisse dans les plus brefs délais. Il se fait ramasser là-dessus, mais l'ensemble de l'œuvre, là, c'est que le Parti libéral du Québec a comme mangé une volée de bois vert depuis le jour de l'an. Mais tout ça de la faute à Jean Charest. On peut pas dire que les officiers libéraux, si ce n'est hier que Marc Tanguay, que certains de ses collègues, d'après ce que je comprends, ne trouvent pas super adroit là, dans la façon dont il a fait ça. Mais regarde, le point, là, c'est que Jean Charest est venu avec sa candidature porter un ombrage. En même temps, ça nous dit peut-être que le Parti libéral s'est pas trouvé après Jean Charest de leader ou de... C'est comme si c'était encore lui. Là. Il réapparaît pendant quelques jours dans l'actualité. C'est comme s'il reprend la place. C'est comme s'il redevient le fantôme
mais de façon,
du Parti libéral.
De façon plus large, Mario, là, tu regardes ça, les conservateurs, les libéraux, les péquistes, personne n'arrive à trouver des candidats à la chefferie de tous ces partis-là qui vont vraiment, comme tu dis, mettre des bulles dans le champagne. Là. Pour l'instant,
non, t'as raison, c'est pas une grande époque de leadership. Hein?
Non, t'es sûr? T'es sûr que ça... OK, c'est correct. Ça suffit. On t'écoute cet après-midi, Mario. Merci, à demain.